VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Cher Robin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité à La Voix de l'Amérique. Dans un peu moins de 10 minutes, votre rendez-vous avec Jean-Roger Bion dans l'Amérique et vous. Mais juste avant, quelques points de l'actualité. Les autorités burundaises ont donné ce vendredi l'ordre à la police de démanteler l'ensemble des barricades subsistant sur le territoire, rapporte l'agence France-Presse, citant un haut responsable de la police ayant requis l'anonymat. Auparavant, les meneurs du mouvement de contestation contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont décrété une trêve d'une journée samedi dans les manifestations. Pour rappel, ces protestations ont fait 18 morts depuis le 26 avril. Et sans surprise, aujourd'hui, M. Nkurunziza a fait officiellement acte de candidature à la présidentielle du 26 juin. Nicolas Pineau.
Oui, le président burundais s'est rendu ce matin à la Commission électorale nationale indépendante. À son arrivée, Pierre Nkurunziza a promis que les manifestations, devenues selon lui une insurrection, seraient maîtrisées d'ici peu. Le chef de l'État burundais a aussi assuré que les troubles ne concernaient que quelques quartiers de Bujumbura, mais que 99% du Burundi était en paix. « Je vous promets que les élections vont bien se dérouler », a-t-il ajouté. Les manifestants morts et les pressions internationales n'ont rien changé à Bujumbura, où la tension s'accroît avec le dépôt de cette candidature. Conformément aux accords d'Arusha, le président burundais a déjà effectué deux mandats et ne peut en effectuer un troisième. « Faux », répondent ses partisans, qui affirment que la constitution burundaise ne tient pas compte du premier mandat au suffrage indirect qui a porté au pouvoir Pierre Nkurunziza en 2005. Ce vendredi, les manifestations se sont poursuivies dans la capitale burundaise.
Et c'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité a entamé des consultations sur la crise au Burundi, une rencontre qui se tient huis clos à New York, d'après l'AFP. Pour autant, on ne s'attend pas à une déclaration formelle. La Russie a bloqué le précédent tentative du Conseil de prendre position sur la controverse à propos d'un troisième mandat du président sortant, Pierre Nkurunziza, arguant que le Conseil ne devait pas s'immiscer dans les affaires constitutionnelles d'un État souverain. En Guinée, la réunion prévue ce matin entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition guinéenne, l'ex-premier ministre Sélou d'Alain Diallo, n'a finalement pas eu lieu. L'opposition dénonçant les violences et les exactions exercées, dit-elle, par les forces de l'ordre sur ses militants. Claire Morin-Gibour a joint Sidia Touré, président de l'Union des forces républicaines, membre de l'opposition, pour lui demander quelles étaient les perspectives politiques de la Guinée.
C'est bien dommage que pendant 5 ans, nous ayons passé notre temps à discuter de problèmes qui, partout ailleurs, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où il y a eu une crise post-électorale, au Mali, où il y a la guerre, au Niger, où il y a eu des choses de ce genre, ont été réglées en 8 mois, en 10 mois. Nous avons passé 5 ans pour cela. Il y a donc un problème ici, au niveau de la gestion du processus électoral, qu'il va falloir régler pour permettre à ce gouvernement de consacrer un peu plus de temps au développement économique et social de notre pays. Il ne faut pas oublier que la Guinée est un pays, 5 ans après l'arrivée de l'Alpha Condé, où on n'a toujours pas d'eau, pas d'électricité, pas d'infrastructure de base, pas d'assainissement de la ville de Conakry. Donc il y a des tas de choses à faire que ces discussions qui n'en finissent pas et qui sont pourtant consignées dans des lois clairement compréhensible pour tous les Guinéens, à savoir qu'en 2011, on aurait dû terminer avec tout ça.
Est-ce que vous allez appeler à de nouvelles manifestations ?
L'opposition se réunira pour discuter de cette question dès demain.
L'ancien Premier ministre et membre de l'opposition guinéenne, Sidia Touré. 12 étudiants ont été blessés grièvement aujourd'hui par un kamikaze qui a ouvert le feu avant de se faire sauter à l'explosif devant un lycée de la ville de Potiskum dans le nord-est du Nigeria, une région régulièrement visée par Boko Haram. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon un policier et des témoins cités par l'AFP, l'assaillant qui portait une ceinture d'explosifs s'est suicidé après avoir épuisé ses munitions sans faire d'autres victimes. L'attaque a eu lieu devant le College of Administrative and Business Studies de l'État de Yobe. Les élèves attendaient de passer un contrôle de sécurité obligatoire devant la porte de l'école à la suite d'une série d'attentats à Potiskum, certains visant des établissements primaires et secondaires. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais la ville a déjà été visée à plusieurs reprises par les islamistes de Boko Haram. En novembre dernier, 58 personnes ont été tuées et 117 blessées par un attentat suicide contre une école secondaire proche du même collège. L'attentat avait été attribué à Boko Haram.
Nouvelle flambée de violences interethniques en République démocratique du Congo. Les Nations Unies indiquent que plusieurs dizaines de personnes ont été tuées fin avril, début mai, dans la province du Katanga. Des miliciens de groupes d'autodéfense